Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire. Edith Heard.
Bonjour, je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue à ce troisième cours. Merci pour votre fidélité. Et cette semaine, on va parler d'exemples divers de l'impact que l'environnement peut avoir sur le règne animal. Évidemment, encore une fois, c'est un sujet vaste. Donc, je choisis certains axes spécifiques et cette semaine, on va plonger un peu plus dans les mécanismes épigénétiques, là où on peut les comprendre. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, mis à part les systèmes modèles classiques. Mais je pense que c'est important de voir à quel point on a quand même des diverses études qui suggèrent qu'effectivement il y a des mécanismes épigénétiques et pour lesquels j'espère qu'on va déchiffrer les bases moléculaires dans le proche avenir. Alors juste pour vous rappeler, voilà, c'est le troisième cours. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout, mais j'ai des doutes. Du coup, une partie de ce cours risque de se déplacer dans le quatrième et dernier cours qui sera sur l'impact de l'environnement sur le règne végétal et où je vais aussi essayer de résumer un petit peu ce qu'on peut comprendre aujourd'hui de la capacité des organismes animaux, végétaux de s'adapter à un environnement qui change rapidement et aussi les implications pour l'évolution. Donc, la semaine dernière, voilà le menu, ce que j'avais espéré couvrir, mais en fait, nous avons parlé, et je vais faire un bref résumé de ces aspects-là, la plasticité phénotypique, les phénotypes programmés par l'environnement. On a aussi touché sur les sujets de la transmission à travers les générations, des signaux environnementaux qui induisent un phénotype, à quel point ces phénotypes sont transmissibles, à quel point il y a un avantage pour que cette transmission soit épigénétique. Et on a parlé un tout petit peu de certains modèles comme la Daphné, une petite crustacée, et puis aussi d'autres modèles. Alors, ça, c'est un sujet très important. J'espère que je vais arriver à la fin de ce cours de vous parler un tout petit peu d'autres modèles, surtout chez la souris. Si je n'arrive pas, je vais quand même le faire au début de du cours de la semaine prochaine parce que je pense que c'est important. Il y a pas mal d'avancées vu les possibilités que nous avons maintenant d'analyser des grands cohortes d'animaux, de faire un séquençage pour pouvoir distinguer entre les effets de changement au niveau du génome et les effets épigénétiques. Donc, un bref résumé. J'ai commencé la semaine dernière en vous parlant de l'impact de l'environnement sur des changements, on va dire, programmés de phénotypes. Par exemple, comment un changement nutritionnel peut avoir un impact sur ce qu'on appelle les polyphénismes. Donc, je vais revenir sur les définitions un peu plus tard parce que on m'a demandé à la fin du cours de la semaine dernière c'est quoi la différence entre la plasticité phénotypique et le polyphénisme. C'est vrai que c'est souvent des termes qui sont utilisés de manière interchangeable et en fait le polyphénisme est un sous-type de plasticité phénotypique, mais parfois on peut avoir des cas où on peut dire que est-ce que c'est réellement du polyphénisme puisqu'il y a toute une gamme de phénotypes. Bref, en tout cas voilà, ici les deux exemples que je vous montre, c'est chez la Nemotastella, c'est une anémone dont j'ai parlé. Ça c'est un travail qui a été fait par Aïssa Mikmi, le laboratoire d'un jeune chef d'équipe à l'EMBL qui en fait est en train de décortiquer les bases moléculaires qui sous-tendent le fait qu'il y a plus de tentacules qui forment avec une nutrition plus importante au cours du développement. Donc au cours du développement, un environnement où il y a plus de nutriments va engendrer des anémones avec plus de tentacules qu'un environnement où il y a moins de nutrition. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est adaptatif, on peut aussi imaginer. Et là, c'est un processus où on commence réellement à comprendre les bases moléculaires, les voies de signalisation qui sont déclenchées, quels sont les types cellulaires. En fait, il s'agit de nanomusculaires qui se forment très tôt au cours du développement, qui est sensible aux nutriments et qui donc va engendrer ce changement ou ce choix. Alors, il y a un autre cas, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais on en a déjà parlé, par exemple, les chenilles qui, en fonction de l'époque de l'année, vont donner sur des arbres, qui poussent sur des arbres, là c'est des chênes, ces chenilles vont changer totalement de forme si elles sortent au moment où il y a des feuilles pour bien se camoufler ou au moment où il n'y en a pas, comme vous voyez. Donc là aussi, c'est des modèles, enfin des modèles, c'est dans la nature, mais où il y a des recherches actives pour comprendre. J'ai parlé un tout petit peu des plantes. On va revenir la semaine prochaine à quel point les saisons et la variation climatique a un impact sur les plantes, par exemple pour le processus de vernalisation, où il faut cette période de froid prolongée pour qu'une plante puisse fleurir au bon moment, lors du printemps qui suit. Et à quel point, en fait, il y a des plantes sur lesquelles on dépend pour nous nourrir, pour nourrir l'humanité, et que ces changements climatiques que nous voyons perturbent fortement ce type de processus. Et là, c'est un processus où on connaît pas mal d'étapes qui sont des étapes épigénétiques où il y a réellement une mémoire cellulaire qui est mise en place et qui a besoin de cette période de froid pour pouvoir bien s'installer. Donc on va en parler. Et aussi, j'ai mentionné mon exemple préféré, ce sont les criquets qui peuvent changer totalement de morphologie. C'est une transition de phase, on appelle ça. Très dramatique et en fait c'est une génération. Le comportement change dès dès le contact de plusieurs individus qui d'habitude sont isolés, mais dès qu'il y a un contact de deux ou trois individus, en fait la transformation de comportement commence. Et dès la prochaine génération, les femelles donnent lieu à des petits, des criquets qui ont changé totalement de morphologie, de coloration. Et alors, est-ce que c'est important? Évidemment, c'est très important. C'est un peste qui peut détruire des grandes étendues importantes pour l'homme. Donc ici, le dernier qui était en 2020, où vous voyez à quel point le ciel devient couvert et ces criquets sont dévastateurs. Ils mangent tout et laissent derrière eux un paysage totalement dévasté. Mais avec le changement climatique, là aussi, on pense qu'il y aura des grands risques en fait de ce type de phénomène et peut-être pas là où on l'attendait. Alors voilà, j'avais parlé de ça la semaine dernière, je ne vais plus en parler, mais c'est aussi un système où on a pas mal d'informations du comment. Donc en fait, cette capacité de, on va dire, mécano-sensibilisation, le fait que les deux ou trois individus se touchent, en fait, déclenche un changement au niveau de leur cerveau et de comportement. Et donc, ensuite, les mères donnent lieu à ces individus. Et donc, j'ai parlé, en fait, de l'hormone juvénile qui est important pour cet polyphénisme du corps. Mais en fait, ce n'est pas l'hormone qui induit la transition de phase. Et il a été découvert que là, c'est cette forme alkylée de la dopamine, de L-DOPA, un analogue de L-DOPA, qui en fait est mis en forme de mousse sur les œufs de ces femelles qui vont induire un changement. Et c'est cette mousse avec ces molécules qui vont en fait déclencher des petits, des nymphes, avec un comportement grégaire, agressif, et avec une apparition, un métabolisme totalement différent. Donc voilà un exemple d'épigénétique, mais qui concerne en fait une transmission via un signal externe. Donc en fait, cette mousse passe l'information de la mère aux nymphes, et ces nymphes ensuite vont propager cette forme lors de plusieurs générations. Alors la réversion de tout ça est moins connue, et je dois dire, peut-être juste le mentionner, que j'ai cherché activement pour voir si depuis quelques années il y a eu de nouvelles études, parce que c'était un système qui est tellement dramatique et assez facile à étudier, mais il y a pas tant d'études que ça. Et la personne qui avait publié des papiers que j'avais décrits il y a quelques années, en fait, il m'a dit qu'il a du mal en fait à financer sa recherche sur ce sujet. Donc du coup, il travaille sur le cancer, le vieillissement. C'est ça que les fondeurs veulent fonder. Voilà. Ici, je vous avais parlé aussi de l'effet des saisons sur les morphes de papillons. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, on peut aussi passer vraiment à la régulation génique de ces différentes morphologies. Donc, les papillons d'été ou d'automne ont des couleurs très différentes d'ailes. Et en fait, au laboratoire, les chercheurs arrivent à montrer que cette coloration dite plastique, ou ces deux morphes de couleurs, peuvent en fait être séparées et assimilées à la Waddington en faisant des croisements dans le laboratoire, et on peut stabiliser donc les deux formes. Et ensuite, avec ces lignées, on va dire, stabilisées avec ces formes, on peut regarder génétiquement quels sont les variants qui sous-tendent ces couleurs. Et là, en fait, il y a 3 ou 4 gènes qui ont été identifiés. Et je vous avais parlé d'un des gènes qui, en fait, finalement, c'est un ARN non codant qui produit un micro-ARN. Donc, ce n'est pas encore publié sur BioArchive, et on en parlera dans l'avenir. Et j'avais aussi mentionné le fait que l'environnement, on va dire, que l'homme impose aux insectes peut avoir un impact très important. Donc l'utilisation de produits agrochimiques, et puis aussi le changement de climat, l'augmentation de température, ont un effet important sur le comportement, la reproduction de ces insectes. Donc les études que j'ai citées en fait ont été faites sur la drosophile, qui est le modèle préféré des généticiens qui travaillent sur les insectes, et ils ont donc défini quel est l'impact de ces différents produits agrochimiques en faisant une étude systématique au cours du développement, et en regardant ensuite le comportement des larves et des mouches. Et ils ont vu qu'effectivement, il y a un effet dramatique sur la reproduction. Vous voyez ici, entre le contrôle et les mouches qui ont été exposées. Et ils ont aussi regardé au niveau de certains papillons et des moustiques. Et donc, il y a cet impact aussi. Combiné avec un changement de température à 4 degrés, ces effets sont largement augmentés. Donc, en fait, ces effets sont amplifié lorsque la température change. Donc cette combinaison de choses, les pesticides plus le changement climatique, risque d'avoir un effet encore plus dévastateur. Donc juste pour vous donner une idée, en Allemagne, il y a eu une baisse de 70% de la population des insectes dans les 20 dernières années. Donc c'est énorme l'impact que l'homme a sur le monde naturel. Et voilà, les derniers exemples que je vous avais montrés, c'est cette magnifique animal qui est un clone. Et donc, en fait, c'est ces marble crayfish, comme on dit, sont génétiquement uniformes, mais on les retrouve partout, ou dans beaucoup de régions du monde. C'est un peste, mais un peste qu'on peut aussi manger. Mais en tout cas, ça envahit tout plein d'écosystèmes. Et donc, en fait, c'est très intéressant parce que grâce à des études qui commencent juste récemment, on peut essayer de voir quels sont les variants épigénétiques, non génétiques, parce qu'en fait, il y a très peu de variations génétiques, il a été montré, entre les différents écotypes qu'on trouve dans ces différents environnements. C'est un clone, donc il y a beaucoup moins de brassage génétique avec une récombinaison au cours de la reproduction sexuée. Donc, c'est une reproduction asexuelle. Et donc, du coup, on peut vraiment étudier l'impact des changements épigénétiques et la caractérisation de ces différentes morphes qu'on trouve dans ces différentes régions. Donc ça, c'est, je pense, un domaine très prometteur et puis, bien sûr, aussi important, vu l'impact économique aussi que cette invasion de ces espèces peut avoir. Donc, pour résumer un tout petit peu et pour passer ensuite à la partie animale de cette semaine, je voulais quand même vous rappeler de quoi je parle là, la plasticité phénotypique. Ici, je vous avais déjà montré ce cartoon, ce petit dessin qui vient en fait d'un livre sur l'épigénétique de Dave Alice, Thomas Genovine et autres, qui est le livre classique d'épigénétique que tout le monde regarde. Donc c'est très simpliste, mais finalement, pourquoi pas? Parce qu'en fait, ça montre que le output ou les rendements phénotypiques que nous voyons à partir d'un génome sont définis par, bien sûr, la séquence de l'ADN génétique et ses variants, aussi par la régulation de la chromatine, qui, bien sûr, peut être influencée par les changements génétiques, mais qui est aussi influencée par l'environnement. Donc, l'épigénome, les changements d'état de chromatine, des ARN au codon, etc., est influencé par les changements génétiques et par l'environnement et aussi par des phénomènes, on va dire, probabilistiques, c'est-à-dire des effets stochastiques qui peuvent avoir lieu au cours du développement ou même dans des tissus adultes. Et donc cette combinaison de génome, environnement et l'épigénome donne lieu à cette variété de phénomes. Alors, c'est complexe, évidemment, mais c'est ça, la vie. Et donc, en fait, il faut décortiquer ces différentes parties. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêt sur la plasticité phénotypique et le polyphénisme, parce que ça nous montre à quel point ces différents acteurs jouent un rôle dans un phénotype donné. Juste pour rappeler, la régulation épigénétique sous-tende ces divergences phénotypiques qui peuvent être stables quand il s'agit du polyphénisme, comme les abeilles dont j'ai parlé, etc. Et donc, c'est des modifications de l'ADN, la méthylation de l'ADN, la modification des histones et les protéines qui s'associent, et les métabolites qui interagissent avec cette machinerie transcriptionnelle et qui peuvent donner lieu à ces changements de la chromatine et aussi des ARN au codon. Et bien sûr, les circuits de signalisation que nous voyons au cours du développement et puis aussi dans les tissus en homéostase. Mais quand on parle d'un phénomène, réellement épigénétique dans le sens moderne, c'est que ces effets, cet état d'activité transcriptionnelle et le phénotype est stable une fois que le stimulus initial est passé. Donc ça, c'est important, même si effectivement, comme on a discuté la semaine dernière, on parle de changements épigénomiques qui peuvent en fait ne pas être stables aussi. Mais pour tout ce qui est phénotype stable et aussi la capacité, de s'adapter au cours de l'évolution, il faut qu'on parle aussi de ces changements épigénétiques qui peuvent être stables au cours d'une vie et même à travers des générations. Donc, pour continuer, la plasticité phénotypique est la capacité d'un seul génotype de donner plusieurs phénotypes, dont la Daphné, enfin tous les exemples que je viens de vous montrer. Et c'est aussi la capacité à répondre des processus développementaux à l'environnement, que ce soit un environnement de nutrition, de température, etc. Et cette plasticité phénotypique pourrait faciliter des changements adaptatifs et augmenter la diversité phénotypique pour mieux supporter les changements de l'environnement, ou pas. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça peut être aussi une plasticité phénotypique peut aussi être mal adaptive, et on va revenir sur ce sujet plus tard. Et puis le polyphonisme, comme je l'ai dit, est en fait un sous-type de plasticité phénotypique où les phénotypes ne sont pas en continu mais plutôt discrets, et où on peut avoir plusieurs phénotypes distincts à partir d'un même génotype. Alors, comme les abeilles, je vais vous parler un petit peu des fourmis bientôt. Et ici, aujourd'hui, on va en parler en fait des mammifères, des souris et des hommes. Et juste pour vous donner un petit peu une idée de quoi on va parler, par exemple, on peut avoir des individus qui sont génétiquement identiques, des jumeaux, qui montrent un dimorphisme assez important au niveau de l'obésité. On peut avoir un jumeau qui est normal et puis l'autre qui est obèse. Et on a maintenant découvert des souris qui montrent aussi ce type de dimorphisme. Et donc on essaie de comprendre ce polyphénisme parce que c'est très important pour mieux comprendre les bases de cette variabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être due à l'environnement ou pas, ça peut être aussi probabilistique, mais une variabilité qui peut avoir lieu au cours du développement, qui va prédisposer finalement à un phénotype, à donner lieu à un phénotype qui est très différent, même si génétiquement les deux individus sont identiques. Donc je voulais aussi juste dire que, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de Waddington, et de la canalisation, la capacité de résister une perturbation par l'environnement du développement, une perturbation phénotypique par l'environnement. En fait, cette canalisation la résilience ou le robustness phénotypique est très important. Et on a parlé de HSP 90. Et il y a d'autres facteurs aussi qu'on va mentionner aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que la plasticité d'une part et cette canalisation de l'autre sont complémentaires, c'est pas à l'opposé. Donc c'est tout un débat très important. Il y a beaucoup de discussions entre les biologistes du développement et les biologistes qui travaillent sur l'évolution, sur ces concepts. Mais en fait, on réalise que à la base, voilà, on a des réseaux de gènes qui doivent instruire le développement d'un embryon, qui peuvent être influencés par l'environnement ou par des changements stochastiques ou par le génome, et qu'en fait on peut arriver à avoir des phénotypes très divers, mais aussi il faut éviter, je dirais, la catastrophe totale, comme les expériences de Waddington avec l'assimilation où effectue un choc aigu d'environnement au cours du développement peut donner lieu à des phénotypes qu'on peut effectivement sélectionner. Donc ça veut dire que c'est faisable, même si normalement ce n'est pas ça qui se passe, parce que effectivement il y a cette canalisation. Et donc pour terminer sur ce résumé, il y a diverses manières pour traduire une variation de l'environnement dans des modifications phénotypiques qui sont reproductibles. Donc ça, y compris avec les changements au niveau épigénomique au cours du développement. Et puis les changements épigénétiques qui ont lieu et qui maintiennent cette différence phénotypique qui peut avoir lieu au cours du développement et après dans l'adulte. Et donc là, je vais essayer aujourd'hui de vous parler un peu plus de ces phénomènes épigénétiques qui jouent un rôle là où on a des données. Donc, je vais vous parler de deux choses. Donc, les castes, le polyphénisme des castes dans les colonies eusociales, où il y a en fait une reine en général plus des travailleurs. Je ne vais pas vous parler encore des abeilles, on en a parlé beaucoup. Chez les abeilles, en fait, c'est un exemple où effectivement il y a des données qui suggèrent que l'épigénétique est impliquée. Donc, les larves sont nourries avec des quantités de gelée royale importantes deviennent des reines, et les larves qui ne sont pas nourries avec la gelée royale ou avec très peu, mais plutôt avec cette pain d'abeille qui est riche en extrait de plantes, deviennent des ouvrières. Et en fait, il a été déjà montré qu'il faut une inhibition de la DNA-méthyltransférase de novo, DNMT3, donc il y a des inhibiteurs de ces enzymes et des histones des acétylases dans la gelée royale, et c'est cette inhibition qui est importante pour le changement d'expression des gènes qui va conduire à une reine. Et puis dans le cas des ouvrières, il faut la présence de ces facteurs plus la présence de micro-RN qui est présent dans le pollen dans ce produit. Donc en fait, on commence à comprendre les bases moléculaires, même si finalement, dans le cas des abeilles, les facteurs ou les enzymes épigénétiques sont impliqués, mais la manière exacte qu'elles traduisent cette information à une régulation spécifique pour créer une reine est toujours loin d'être connue. Donc on connaît beaucoup de gènes qui sont différemment exprimés, et où on voit la présence de la méthylation de l'ADN, mais en fait très peu de ces gènes où la méthylation de l'ADN semble avoir un rôle véritablement régulateur. Donc ça reste quand même un grand point d'interrogation. Donc peut-être dans l'avenir je vais vous en parler une fois qu'on a compris un peu plus. Mais je voulais vous parler aussi en fait des fourmis. Et ça, je vais en venir. Je vais vous parler aussi des rats taupes nus, parce que chez les mammifères, il y a aussi des cas de mammifères eusociales où il y a une colonie avec une reine et des ouvrières. Donc on n'en a pas beaucoup parlé dans le passé, et je pense que c'est le moment d'en parler, même si effectivement les bases épigénétiques sont loin d'être connues, mais je pense que ça c'est un modèle vraiment intéressant, non seulement pour cette polyphénisme si on veut, et cette plasticité phénotypique, parce qu'en fait les ouvrières peuvent se transformer en reines dans des bonnes conditions, mais aussi parce que c'est un modèle incroyable pour le travail sur le vieillissement, le cancer, etc. Et puis, comme je l'ai promis, on va parler de l'homme et de la souris et le polyphénisme lié avec l'obésité. Donc, juste pour commencer avec les fourmis, parce qu'il y a là des nouvelles études qui commencent à décortiquer un peu les processus. Donc, chez les fourmis, il y a beaucoup de différents types de fourmis, mais le laboratoire de Shelley Berger, qui est une biochimiste épigénéticienne qui travaille à UPenn aux États-Unis, et le laboratoire de Danny Reinberg, qui est aussi un biochimiste aux États-Unis, depuis longtemps ont décidé d'essayer de comprendre quelles sont les bases épigénétiques de la distinction qu'on trouve entre les différentes castes chez les fourmis charpentiers de Floride. Alors, pourquoi elles s'appellent charpentiers? C'est parce qu'elles creusent leur nid dans le bois et créent des tunnels et des galeries très lisses. Donc, pas évident si on les a chez nous, mais en tout cas, un modèle très étudié. Et elles sont très intéressantes parce qu'elles ont des phénotypes morphologiques et des comportements très différents, très distincts, même si le génome est commun. Et donc, c'est pour ça qu'elles étaient choisies pour des études épigénétiques. Donc, au niveau de leurs différentes castes, il y a les castes d'ouvrières qui sont appelées mineures. Et les castes majeures. Donc il y a la reine et puis des mâles Et on ne va pas parler de la reine et des mâles, mais on va parler de ces ouvrières qui, en fait, sont génétiquement identiques, mais qui ont des comportements totalement différents. Donc, les majeurs, en fait, sont plutôt impliqués dans la défense de la colonie, donc un comportement assez agressif et de défense. Et puis, les ouvrières mineures, en fait, vont chercher la nourriture. Et il y a quelques années, le labo de Shelley-Berger a regardé si les facteurs épigénétiques associés avec la chromatine, les modifications des histones en particulier, sont impliqués dans cette différence entre les majeurs et les mineurs. Et ils ont fait une étude. Et donc, j'en avais déjà parlé, donc je vais juste résumer ici. À l'époque, ils ont regardé l'impact de donner des inhibiteurs des histones désacétylases ou des histones acétyltransférases. Donc ça, c'est une enzyme qui va enlever l'acétylation de l'histone H3 ou H4. Et ici, c'est des inhibiteurs qui vont les HAT, les acétyltransférases, qui va déposer cette acétylation. Et donc, l'acétylation des histones en général associée avec une activité génique et l'hypoacétylation avec une inactivité génique. Donc, ce sont des drogues qui sont utilisées très, très largement, y compris en clinique. Et en tout cas, voilà, avec... une imposition, une injection de ces drogues, quel est l'impact sur les fourmis juste au moment de l'éclosion, donc au moment où elles sortent de leur pupe. Donc, ce sont injectées et ensuite, ils ont regardé à quel point elles ont un comportement différent. Et ce travail a montré qu'effectivement, les ouvrières mineures, en fait, butinent plus tôt dans leur vie avec plus d'intensité que les ouvrières majeures et avec un inhibiteur d'HDAC chez les ouvrières majeures, on stimule un comportement de recherche de nourriture comme si c'était une mineure. Donc, la fourmi reste... en forme majeure, mais elle a totalement un comportement de mineur. Donc, l'inverse est trouvé avec le traitement d'inhibiteur HAT. Donc, en fait, c'était très intriguant comme étude qu'effectivement, ce type de traitement peut avoir un impact si important sur le comportement. Et donc, ça a été suivi par une étude, une autre étude, où le laboratoire de Berger a regardé comment cette reprogrammation par un inhibiteur des histones des acétylases, et en l'occurrence la tricostatine A, TSA, peut être utilisée pour changer le comportement et donc du coup peut-être essayer de comprendre comment ce comportement naturel de recherche de nourriture ou pas, ou de défense, est mis en place. Et donc ici, voilà ce qu'ils ont fait en résumé. Donc ils ont regardé entre jours 0 et 5 comment l'impact de l'inhibiteur HDAC influe en fait la fourmi majeure quand ils injectent, et ils ont fait des études épigénomiques. Donc, ils ont regardé la chromatine génomique de ces individus. Et voilà. Et donc, ils ont étudié à quel moment et de quelle façon, en fait, ces changements ont lieu. Donc, ils ont injecté avec TSA et ils ont vu qu'effectivement cette reprogrammation des majeurs avec TSA fait qu'il y a beaucoup de gènes qui sont normalement régulés, exprimés chez les mineurs, qui deviennent exprimés chez les majeurs, alors qu'a priori c'est pas le cas, et que En fait, ce traitement baisse l'expression des gènes qui normalement sont exprimés chez les majeurs. Donc il y a un impact déjà sur l'expression des gènes, comme attendu. Et ce qu'ils ont vu, en regardant de plus près et en faisant des analyses épigénomiques et de transcription intégrées, qu'il y a un facteur, une protéine qui s'appelle CoREST, qui donc en fait est connue pour, enfin elle est impliquée dans beaucoup de choses, mais en général elle est impliquée dans le cerveau comme une protéine co-réprimante, en fait co-repressor, qui est là pour réprimer certaines gènes dans le génome. Et dans ce cas-là, ils ont vu que CoREST est déclenché ou surexprimé quand ils traitent avec la TSA. Donc CoREST, ça fait partie d'un de ces gènes. Et ils ont montré qu'effectivement, c'est cette protéine qui semble avoir un impact sur le changement épigénétique qui fait que le comportement est totalement transformé. Donc en fait, comment ils ont fait ça? Ils ont regardé quels sont les gènes qui sont activés, y compris CoREST. Ensuite, ils ont regardé où se lie CoREST par épigénomique. Donc ici, vous voyez un des gènes qu'ils ont regardé dans le génome. Et en fait, il s'agit de juvenile hormone. Donc d'habitude, chez les majeurs, cette hormone, en fait, n'est pas exprimée ou très peu. Mais chez les mineurs, elle est surexprimée. Et effectivement, après le traitement de TSA, elle est surexprimée. Et on voit que ça corrèle exactement avec un lien avec, avec CoREST. Et donc, en fait, ce profilage montre que cette association de CoREST et avec des gènes qui sont normalement sont impliqués dans la dégradation de cette hormone qui devient surexprimée donc avec la reprogrammation. Donc le taux élevé de CoREST, le taux bas de cet dégradateur de juvenile hormone et les taux élevés de cette hormone font que sans doute, les fourmis changent complètement de comportement au niveau de la recherche de nourriture. Et donc, ils ont montré dans ce papier que sans doute, ce facteur épigénétique est un joueur central dans la reprogrammation de ce comportement. Mais la grande question, c'est bien sûr, c'est un système artificiel avec injection des inhibiteurs d'HDAC. Comment ça se passe in vivo, enfin dans la nature. Alors ici, oui, c'est juste un résumé pour vous montrer, pour vous dire ce que je viens de dire, donc cette reprogrammation. Donc, est-ce que c'est réellement comme ça que la reprogrammation a lieu au cours du développement de ces fourmis? Et il faut dire qu'effectivement, cette étude collait avec ce qui était connu parce que cette hormone juvénile ainsi qu'une autre hormone, l'ecdysone, sont souvent trouvées comme des médiateurs de division de caste ou de changement de comportement dans les ouvrières, y compris dans d'autres types de fourmis et aussi des abeilles, et aussi dans d'autres animaux comme les rats torse nus. Donc on pense qu'effectivement ces hormones sont absolument clés pour ces différences de comportement et de développement. Et donc les voies épigénétiques sont importantes pour les réguler. Et donc dans une étude beaucoup plus récente, le laboratoire de Berger a regardé comment ça se passe au cours du développement des fourmis. Et cette fois-ci sans injection. Et ils ont regardé à différents stades de développement, donc au stade pendant le développement dans les pupes, donc avant l'éclusion des nymphes. Hein, ils ont regardé comment CoREST et l'expression des gènes semblent être changés. Et puis ensuite, à l'occlusion aussi, ils ont regardé. Donc, ce qu'ils ont trouvé, je vous passe les détails de comment, mais ils sont tombés sur un facteur de transcription qui s'appelle TramTrac, TTK, qui en fait est présent. Ce facteur de transcription, donc je vous rappelle, les facteurs de transcription peuvent reconnaître de manière spécifique les séquences de l'ADN se lient. Donc il faut des facteurs, des acteurs chromatiniens pour faciliter ce processus, mais c'est quand même ce facteur de transcription en général qui sont la clé des changements d'expression génétique et ensuite une éventuelle propagation de ce changement d'expression est due à des changements épigénétiques et chromatiniens aussi. Mais donc, ils ont trouvé que CoREST et TramTrac, en fait, corrèlent avec les profils d'expression attendus pour les différences entre les majeurs et les mineurs. Mais ils ont trouvé que TramTrac, ce facteur de transcription, est présent même avant la présence de CoREST. Et ici, je vous montre certains différents gènes qui sont impliqués dans ce changement d'expression et finalement de ce changement de comportement. Et vous voyez qu'avant éclusion, CoREST n'est pas associé à ces gènes. Donc ici, vous voyez majeur et mineur. Donc il n'y a pas de différence entre les larves majeures et mineures pour la présence de CoREST. Donc ce facteur épigénétique n'est pas responsable de cette définition de qui va devenir majeur et mineur. Par contre, TramTrac est bien présent que chez les mineurs. Vous voyez ici, mineur, ici aussi, ici et ici, et pas dans les majeurs pour ces quatre gènes étudiés. Donc ça montre bien qu'il y a déjà un facteur transcriptionnel qui est lié à ces gènes. Mais pour que ces gènes puissent être correctement régulés, il faut CoREST. Et donc là, on voit qu'effectivement, au moment de l'éclusion, à jour zéro, et ça, c'était le moment où ils avaient fait les tests de reprogrammation par injection. Et là, on voit qu'effectivement, on commence à voir la présence de CoREST qui est présent surtout chez les mineurs. Et qui corrèle effectivement avec TramTrac. Donc TramTrac reste prédominant sur les mineurs et pas les majeurs, même si ça augmente un peu dans certains cas, un peu, mais c'est beaucoup plus prédominant sur les mineurs. Et CoREST corrèle avec ça. Donc on pense que ce sont des régions qui sont déjà liées par TramTrac, qui ont besoin de CoREST pour pouvoir traduire cette expression différentielle qui est importante et que c'est là où le côté épigénétique et l'inhibiteur des HDAC joue son rôle, c'est au niveau de l'éclosion et au niveau de cette étape de, traduction de l'action que le facteur de transcription a essayé de déclencher. Donc, ça vous montre qu'effectivement, les phénomènes épigénétiques ou épigénomiques sont importants, mais ce n'est pas les instructeurs, ce n'est pas les instructions. Donc, bien sûr, maintenant, il y a plein de questions. Ici, ça vient du papier, un petit résumé qui a été montré que les gènes qui vont être exprimés de manière biaisée chez les majeurs se lient avec TramTrac, mais les mineurs, pas. Et donc, bien sûr, ça c'est avant l'éclusion. Et donc la question c'est pourquoi? Quels sont les signaux qui font que ce facteur est exprimé chez les mineurs? Donc ça on ne sait pas. Voilà. Donc il y a déjà quelque chose qui déclenche cette différence. Donc ça, même si on comprend un peu plus, c'est clair qu'il faut aller même en arrière pour comprendre mieux. Et puis. Une fois que cet facteur est exprimé, et donc qui lie CoREST, qui fait que ces gènes vont être éteints chez les majeurs et exprimés chez les mineurs, donc CoREST facilite cette extinction, quel est en fait l'impact de cette différence d'expression des gènes dans la spécification des casques? Pourquoi il y a cette différence de comportement? Donc il faut qu'on comprenne réellement quels sont les gènes qui sont différentiellement exprimés grâce au rôle de TramTrack et de CoREST qui font qu'il y a certains gènes chez les mineurs qui sont préférentiellement exprimés pour le comportement de cherche de nutrition ou de nourriture, mais on est loin de comprendre ça. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais c'est un joli modèle qui permet de regarder au cours du développement et ensuite en phase adulte quelle est cette différence phénotypique et à quel moment cette plasticité ou cette différence est mise en place. Donc maintenant, on passe à toute autre chose. On passe aux mammifères. Et c'est rare, les mammifères eusociales. D'ailleurs, c'est peut-être les seuls cas connus. Ce sont des espèces qu'on trouve, les rats taupes nues, Heterocephalus glaber, qui sont trouvés dans certaines régions de l'Afrique de l'Est, donc en Éthiopie, Somalie, Djibouti et à l'est du Kenya. Et ces animaux sont assez extraordinaires. Ils vivent sous terre, ils sont quasiment aveugles et puis ils n'ont pas d'oreilles évidentes externes. Ils sont... Enfin, ça dépend. On peut dire qu'ils sont moches, mais pour d'autres, ils sont grands. Comme on dit en anglais, beauty is in the eye of the beholder. Donc, ceux qui travaillent avec ces animaux les adorent. Je connais quelqu'un. Et en fait, malgré ce visage qui a l'air très, très agressif, en fait, ils mangent que des plantes et en fait, les bulles de plantes. Donc, c'est pas des carnivores. Par contre, ils utilisent ces dents pour creuser des trous, pour faire les tunnels souterrains. Donc, c'est très important pour pouvoir, en fait, s'installer sous terre. Et c'est dans des régions très arides, les zones presque désertifiées. Donc, en fait, il y a un intérêt de vivre en société, en colonie, pour survivre dans ces régions. Et il y a des espèces qui sont très proches des rats taupes nues du point de vue évolution et qui sont tout le contraire. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais qui ont un comportement et une morphologie différentes. Ils vivent par terre et ils ont un comportement totalement solitaire, à tel point que quand les mères mettent bas, en fait, elles abandonnent presque immédiatement les petits dès qu'ils puissent commencer à bouger. Donc ça, ce sont des rats taupes de d'autres espèces, mais qui vivent dans des régions assez proches, mais où l'environnement est quand même très différent. Donc, pour revenir sur les rats taupes nues, il y a différentes colonies qui ont été trouvées. Ils sont extraordinaires parce qu'ils peuvent vivre sous terre avec des niveaux d'oxygène très basses. Ils ne sentent pas la douleur. Ils ont une peau très plastique parce qu'ils vivent dans des tunnels et doivent se glisser dans des chambres. Ils font des chambres, enfin les colonies qui s'étendent sur plusieurs kilomètres avec des tunnels. Et donc pour passer dans les tunnels, ils sont obligés d'avoir une peau très plastique et ils se marchent les uns sur les autres. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils vérifient l'hiérarchie. S'ils marchent l'un sur l'autre, il y a le plus dominant, etc. Donc, ils ont une peau très plastique, pas de douleur. Ils n'ont jamais le cancer. Donc, en fait, ils résistent, et ça, c'est encore un mystère, le cancer. Ils ne vieillissent pas. Et alors qu'ils ont la taille d'une souris, une souris de laboratoire ne vit pas plus que 2-3 ans, alors que les rats taupes nues peuvent vivre jusqu'à 37 ans, et en général, meurent d'accidents, pas de vieillesse. Et la reine, donc chaque colonie a une reine, elle peut se reproduire jusqu'à sa mort. Donc une reine qui meurt à 30 ans ou plus, en fait, elle a produit presque 1000 petits. Chaque portée fait entre 8 et 12, et c'est une reproduction tous les quelques mois, donc en fait, elles produisent de manière assez prolifique. Et alors, Il y a des études épigénomiques qui sont en cours. J'aurais bien aimé vous donner plus, même parce que moi-même, mon laboratoire en collaboration avec un laboratoire en Angleterre a commencé il y a quelques années. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, mais les méthylomes ont été regardés par un autre labo et il semblerait qu'effectivement, les méthylomes des rennes est un peu différent des méthylomes de femelles ouvrières qui ne se reproduisent pas. Et il semblerait que les rennes vieillissent un peu plus lentement même que par rapport à leur méthylome, par rapport aux ouvrières. Donc voilà, ici je vous montre comment l'hiérarchie est établie. Donc la reine est la seule femelle qui se reproduit. Elle a un harem avec de 1 à 3 mâles. Choisis et très protégés, qui sont les seuls mâles qui ont le droit de reproduire avec la reine. Après, il y a les ouvrières qui ont différentes tâches dans la colonie et c'est extrêmement bien organisé. Donc, il y a les soldats, donc c'est les mâles et les femelles ouvriers qui sont là pour défendre contre les prédateurs, un peu comme pour les fourmis tout à l'heure, aussi contre d'autres ratopnus qui viennent essayer, et je vais revenir sur ça, parce que même si les colonies sont assez isolées, il y a quand même des échanges entre les colonies, et ça c'est très important, sinon la colonie devient totalement... génétiquement pauvre, on va dire, et donc en fait il y a de temps en temps l'entrée de mâles, mais je vais revenir sur ça. Mais en général, un étranger qui arrive est tout de suite sorti de la colonie, et puis il y a les ouvrières qui font tout le reste, qui cherchent la nourriture, qui prend soin de la reine, qui passe beaucoup de temps à se reproduire et qui prend soin des petits aussi. Et alors pourquoi, quelle est la base de cette différence entre les ouvriers et la reine? En fait, tous les ouvriers, que ce soit des femelles ou des mâles, sont bloqués dans un état prépubertal. Donc en fait, ils ne rentrent pas dans la puberté. Les mâles, quand on regarde la formation de testis, il y a très très peu de spermatozoïdes qui sont faits, qui apparaissent. Il y en a quand même, mais ils sont vraiment dans un état prépubertal. Et les femelles, en fait, elles ont des œufs dans les ovaires. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est aussi un modèle très important, parce que chez les ratopnus, les femelles, elles ont beaucoup d'œufs à la naissance. Et puis, comme la plupart des mammifères, y compris l'humain, ce sont des œufs qui sont présents déjà dans les ovaires. Mais chez les ratopnus, elles peuvent générer encore d'autres œufs après la naissance. Donc ça, c'est intéressant et peut-être en lien avec le fait qu'effectivement, on n'a pas aussi le vieillissement qui apparaît. Donc c'est aussi un modèle très intéressant pour comprendre la fertilité et pourquoi il n'y a pas de baisse de fertilité chez les individus. Bon, tout ça pour dire que chez la femelle et le mâle, il n'y a pas de reproduction, elle reste dans cet état pré-pubertal. Et en fait, pour réverser ça, il faut séparer la colonie de la reine. Donc si la reine meurt, là, il y a une ou quelques femelles qui vont commencer à rentrer en puberté et qui vont se battre pour devenir reine. Et les mâles aussi vont commencer à rentrer en puberté. Et en fait, il y a une femelle qui devient dominante et qui, elle, devient reproductrice, et elle va bloquer la reproduction de tous les autres. Donc en fait, c'est assez plastique, parce que même au moment où la reine est gestante, elle devient si énorme. Alors ici, je vois ça, voilà la reine quand elle est gestante. Et donc, pour rentrer dans les tunnels, c'est difficile, donc elle bloque un peu. Et donc, il passe quelques jours où elle n'est pas présente dans les tunnels, et là, apparemment, il y a des individus qui sont loin d'elle qui commencent à rentrer un petit peu en puberté. Donc ça veut dire que c'est la reine en fait vraiment qui bloque les individus. Mais c'est dû à quoi? Et alors il y a eu des recherches pour voir si c'est des phéromones. Et ça, il semble pas être dû à des phéromones. Et pour le moment, l'hypothèse, c'est que c'est des odeurs de signature, donc par l'urine, et puis les vocalisations. Donc en fait, la reine, elle fait des bruits constants qui apparemment peuvent influencer et stresser tout le monde. Donc elle se promène en stressant tout le monde. Et puis en fait... Tout le monde bloque la reproduction. Bon, c'est très simpliste, je suis désolée. Mais c'est un peu ça, la conclusion jusque-là. Ce n'est pas des phéromones, mais c'est ce comportement et vocalisation qui est très important. Et on sait que cette vocalisation, et peut-être les signatures d'odeur aussi, déclenchent en fait des hormones, bien sûr, chez les individus. Donc il y a un rôle de... La gonadotrophine hypothalamique, cette hormone qui semble être importante pour intégrer ces signaux environnementaux. Et peut-être il y a un autre peptide, la kisspeptine, qui agit via cette hormone qui est impliquée. Donc il y a des études, mais bon, il faut dire que ça devient un modèle de plus en plus à la mode parce que clairement il y a des connaissances qu'on peut avoir sur la reproduction, sur le cancer, sur le vieillissement. Mais ce n'est pas un animal qui est si facile que ça à faire reproduire dans le laboratoire. Il faut avoir un espace avec plein de tuyaux. Bon, des animaleries de rats top nus ne sont pas si simples, mais il va en avoir, il existe déjà. Et il faut dire que, il faut quand même rappeler, ce sont vraiment des colonies eusociales. Et on peut pas, avec les souris, on peut les séparer et puis les remettre ensemble quand on veut pour la reproduction et les séparer. Une ratope nue, apparemment, si on sépare une ouvrière toute seule, elle va mourir. En fait, ils ont besoin d'être ensemble. C'est très important. Et donc, voilà. Donc, je vous cite quand même le papier il y a quelques années que j'avais fait avec un collègue SQ Mulugata plus Liz Blackburn et Chris Folks qui est un grand spécialiste des rats top nus et qui a une des colonies les plus anciennes qu'il a à Londres. Et on avait étudié les transcriptomes des rats top nus qui étaient mâles ou femelles, reines reproductrices ou mâles producteurs ou des ouvriers. Et on a regardé les cerveaux et les gonades, les ovaires et les testis. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on a vu. En fait, c'était très difficile de conclure quelque chose de mécanistique. On a bien vu qu'il y a des différences d'expression entre les différents types, reproduction ou pas, et puis reine ou pas, et puis mâle ou femelle. Mais peut-être la seule chose qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des composants, des réseaux des gènes qui sont impliqués dans les réseaux de dopamine, un peu comme pour les criquets dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais évidemment, dans le cerveau, c'est évident que les réseaux de dopamine vont être impliqués. Mais... Donc, ces études transcriptomiques devraient être poursuivies dans l'avenir, j'espère, par mon collègue. En tout cas, moi, mon laboratoire ne peut pas faire ça. On n'a pas de colonies. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'intérêt maintenant sur ces animaux. Je voulais quand même juste montrer que, en plus de leur plasticité phénotypique, ils montrent un réel polyphénisme. Parce que, en fait, j'ai dit que dans la colonie, les mâles, il n'y en a que deux ou trois qui peuvent se reproduire avec la reine qu'elle a choisie. Va savoir comment, mais elle a choisi ces trois mâles. Et puis les autres, non. Mais il a été découvert, et ça, l'anecdote, c'est la personne, Chris Folks, avec lequel on a collaboré. En fait, il a travaillé avec la personne originale qui avait établi les colonies de rats top nus en Afrique. Et en fait, au moment où elle a établi les colonies dans un laboratoire, elle a réalisé que parfois il y avait certains mâles qui disparaissaient des cages, enfin, ou des tuyaux, qui avaient la capacité de s'échapper très facilement. Et elle pensait que ben voilà, c'était parfois un ouvrier qui s'échappait, ou un soldat, un ouvrier. Mais en fait, ils ont pu constater, et ici c'est des rayons X sur ces animaux. Donc en fait, c'est deux frères. Là, c'est un ouvrier Et c'est son frère qui, lui, est plus grand, plus long, et a beaucoup plus de gras autour de son cou. Et on a appelé ces disperseurs parce qu'ils peuvent partir loin, ils s'échappent. En fait, à l'époque, on m'a dit on les appelait Houdini, mais on ne pouvait pas publier ça comme ça. Donc, ils peuvent s'échapper. Donc, ils sont gros, paresseux, et puis très chargés sexuellement, et ils aiment bien s'échapper. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'échappent et ils vont trouver une autre colonie. Et ils doivent voyager beaucoup, et c'est pour ça qu'il faut cette phénotype avec beaucoup de gras. Ils ont été étudiés, mais pour le moment, on ne comprend pas du tout comment c'est programmé. Donc, ils ont beaucoup, un niveau très élevé de cette hormone de luténisation. Et ils s'intéressent qu'à se reproduire avec une reine d'une autre colonie, pas avec la reine de la colonie duquel il vient. Donc en fait, ils vont rentrer dans les colonies. Apparemment, même s'ils sont gros et paresseux, ils arrivent à rentrer dans la colonie et à se couvrir d'odeurs qui font qu'on ne le remarque pas trop. Mais bon, si on le remarque, on le tue et donc c'est fini. Mais si on ne le remarque pas trop, en fait, ils arrivent à trouver la reine. Et en fait, les reines, elles ont une préférence pour ces mâles étrangers. Et donc, du coup, ça assure le bien-être génétique de la colonie. Donc voilà, c'est une anecdote, mais je trouve ça tellement beau comme système. Donc, ces disperseurs vont justement établir une nouvelle colonie. La reine, elle est déjà dans une colonie, mais puisque ce mâle va se croiser avec cette femelle, en fait, la reproduction va permettre donc, un changement génétique, une diversification qui est très importante pour que les colonies puissent survivre à long terme. Voilà, donc je pense que je vais faire une pause là. Je vais vous laisser réfléchir sur les rats top nus qui sont fascinants. Et ensuite, on va passer à la plasticité phénotypique chez les souris et les hommes qui sont beaucoup moins excitants, je trouve. Mais bon, voilà, mais revenez quand même. Je vous laisse 10 minutes de promenade. Voilà, merci. Voilà, donc maintenant, on va passer à des mammifères plus connus. Et je commence avec un grand schéma, désolé, mais en fait, je vous ai montré tout à l'heure les souris où on a des souris de taille normale et puis les souris obèses. Et puis, on a des jumeaux aussi. Donc, les souris que je vous ai montrées, c'était génétiquement identique. Et puis, avec les jumeaux aussi, on peut être génétiquement identique, mais avoir des différences comme ça dans certains cas. Et bien sûr, dans une population, on a toute une gamme de tailles, de tendances à obésité, etc. Mais c'est très intéressant de comprendre si est-ce qu'il y a ce polyphénisme, c'est-à-dire deux phénotypes distincts qui peuvent se trouver dans certains contextes. Et un peu par hasard, une grande généticienne, Emma Whitelaw, une Australienne qui malheureusement a pris sa retraite. Elle n'a pas dû le faire quand elle a fait, mais bon. Donc elle avait identifié un mutant, ou plusieurs mutants. Elle cherchait en fait les mutants qui affectent les phénomènes épigénétiques chez la souris, donc l'expression monoallélique, biallélique ou de l'expression des gènes variégués, donc c'est-à-dire la probabilité que des gènes s'expriment. Donc, les facteurs épigénétiques qui pouvaient influencer ça. Donc, en fait, elle a fait un crible. Elle est tombée sur au moins deux gènes qui codent pour des protéines qui semblent avoir cet effet quand ils sont présents en une seule copie. Donc, on a normalement deux gènes, deux allèles qui produisent les ARN et les protéines des deux copies. Mais si on a une mutation dans un allèle, on n'a que le produit de l'autre. Donc, bon, parfois c'est normal, comme l'inactivation du chromosome X ou les gènes soumis à l'empreinte. Parfois, ce n'est pas normal et c'est quelque chose qui peut avoir un impact, un phénotype. Et ce qu'elle a trouvé pour certains gènes, certains facteurs épigénétiques. Et un de ces protéines, un de ces gènes était ce facteur TRIM28. Donc on en a déjà parlé de TRIM28, on a, et à d'autres cours. C'est une protéine qui s'appelle aussi CAP1. C'est une protéine qui est exprimée de manière un peu ubiquitaire et elle est impliquée dans tout un tas de choses. Alors moi, j'en avais parlé il y a quelques années parce que c'est un des facteurs qui est important pour réguler les transposons, les éléments transposables. En fait, TRIM28 est absolument essentiel pour ça. Cette protéine le fait via des facteurs de transcription qui s'appellent des crab's finger proteins, qui sont montrés là, voilà, crab's finger proteins. Et donc, en fait, cette protéine, elle aime bien, elle s'associe avec tout un tas de facteurs de transcription qui, eux, se lient à l'ADN. Donc, en l'occurrence, certains de ces crab's finger régulent des éléments transposables, comme montré ici, chez la souris et chez l'humain. Et puis, il y a d'autres facteurs zinc finger à laquelle s'associe TRIM28 pour réguler des gènes, pas des transposons, comme les gènes qui sont soumis à l'empreinte et qui ont des régions différentiellement méthylées. Et donc, zinc finger protein 57, ça fait partie de ces protéines qui sont importants pour les gènes soumis à l'empreinte. Donc TRIM28 s'associe avec tout ça. Et puis par ailleurs, TRIM28 apporte plein de partenaires divers et variés qui sont impliqués, par exemple, dans la modification de la chromatine, soit pour apporter des changements comme la méthylation de l'histone H3, donc ces deux facteurs ici, 7DB1 et GNFA, méthylent l'histone H3, la lysine K9. Elle apporte aussi des histones désacétylases. On avait parlé tout à l'heure des HDAC. Ben voilà, TRIM28 en fait s'associe avec plusieurs complexes qui comprennent des HDAC, comme le complexe NERD ou le facteur NERD qui s'associe avec HDAC1. Donc c'est une histone désacétylase qui enlève l'acétylation à la lysine 9 et à d'autres lysines d'H3. Et puis aussi avec des facteurs qui peuvent se lier à la chromatine et qui sont liés via les modifications des histones comme HP1. Donc TRIM28 en fait s'associe avec HP1, heterochromatin protein 1, qui en fait s'associe avec la méthylation de la lysine 9 qui est déposée par exemple, le 7DB1 ou GNFA. Donc en fait, on se retrouve avec TRIM28 comme un peu une protéine centrale de tout un tas de processus, y compris la formation de l'hétérochromatine, la régulation des gènes soumis à l'empreinte, où il y a un seul gène, une seule copie exprimée, et puis aussi les éléments transposables. Donc, comme attendu, quand on délète TRIM28, le gène de manière constitutive, c'est-à-dire si une souris est née sans avoir du tout de TRIM28, l'embryon meurt très tôt, juste après l'implantation. Donc, en fait, les souris KO totales, n'existent pas parce que c'est une létalité embryonnaire, quand les deux allèles sont mutés. Et quand un seul allèle est muté, voilà de quoi je vais vous parler là. Je voulais juste soulever le fait que la protéine est impliquée donc dans la machinerie épigénétique, surtout quand elle est modifiée elle-même, sous-moélée, elle a tendance à s'associer avec tout le monde là. Et puis, quand elle est phosphorylée, elle est aussi impliquée dans la réparation de l'ADN. Donc, c'est vraiment un facteur qui a beaucoup, beaucoup de rôles différents et je pourrais faire une série de cours que sur ça, mais je ne vais pas le faire. J'arrive au papier dont je vais vous parler, ou les papiers dont je vais vous parler. Donc, Emma Whitelaw avait fait ce crible, comme je l'ai dit, pour sortir des modificateurs de l'expression des gènes en utilisant un rapporteur pour voir quels sont les modificateurs de l'état d'expression des gènes épigénétiques. Et donc, elle a trouvé plusieurs gènes, y compris deux, TRIM28 et DNMT3A. On en a déjà parlé de DNMT3. C'est une de novo méthyltransférase. C'est une protéine qui va mettre en place la méthylation. Et en fait, elle a fait cette analyse en regardant les souris qui sont hétérozygotes. Donc en fait, où il y a un seul allèle délété de ces gènes. Et puis, ce qu'elle a remarqué, c'est que dans ces deux cas-là, elle voyait une grande variation dans le poids des souris. C'est-à-dire les souris les plus légers et les souris les plus lourds étaient beaucoup plus différents que chez les souris qui n'étaient pas mutées. Donc c'était deux phénotypes. Et puis elle a aussi montré que ces mutants, avec une copie de TRIM28 en particulier mutée, pouvaient développer un syndrome métabolique et avoir peut-être un comportement aussi un peu différent. Donc ça, c'était un papier il y a plusieurs années et voilà les données. Donc là, c'est le poids des souris et là, c'est l'âge des souris. Les diamants sont les souris non mutantes. Et vous voyez que, voilà, avec l'âge, il y a une variation dans le poids que vous voyez ici. Et puis, les triangles sont les hétérozygotes pour TRIM28. Et vous voyez qu'avec l'âge, il y a des souris qui sont plus légères que le wild type ou le même poids que les wild types, ou des souris qui sont beaucoup plus lourdes, plus grosses. Et ici, ça vous montre la fréquence des poids moyennes. Et vous voyez qu'il y a donc deux poids. Un poids moyen qui est environ 20-25 grammes et puis un autre vers 45. Et cette variance peut être très très grande. Ça peut être presque 100% plus gros une souris hétérozygote pour TRIM28 que une souris une sœur ou un frère équivalent. Et elle a aussi montré que les souris obèses de ces mutants, quand elles étaient comparées avec les frères ou sœurs de la même portée qui étaient non mutants, avaient des différences au niveau du foie et aussi au niveau de leur réponse au glucose. Donc en fait, si les souris étaient à jeun pendant 15 heures et ensuite injectées avec une solution de glucose, en regardant la réaction, on voit qu'effectivement, les hétérozygotes ont une réaction beaucoup plus lente et différente, qui suggère effectivement un phénomène métabolique, contrairement aux souris sauvages. Donc, de quoi s'agit-il? Il y a eu donc d'autres études qui ont poursuivi, et je vais vous en parler. Mais là, dans ce papier de Emma Whitelaw, elle a vraiment parlé, et là je vous cite un peu ce qui est dans sa discussion, elle a vraiment parlé de la canalisation, la capacité d'un organisme, et là il s'agit d'un mammifère, d'une souris, à assurer la production d'un phénotype standard d'habitude en dépit de perturbations. Alors Waddington avait parlé de perturbations environnementales ou génétiques. Et ici, c'est exactement ce qu'elle montre, cette perturbation qu'elle a faite, c'est génétique, c'est qu'il y a une copie de TRIM28 de moins. Donc ce complexe, TRIM28 plus tous ses partenaires, clairement est perturbé. Donc avoir la moitié, soit au niveau de la protéine, ou même si ce n'est pas la moitié, au niveau du complexe qui va former, clairement, ça perturbe le développement. Et donc cette idée de canalisation où en fait, normalement, l'embryon va prendre le chemin le plus attendu au cours du développement, mais que quand il y a une perturbation, que ça soit environnementale ou génétique, on voit qu'il y a une altération et on peut avoir un phénotype qui est très différent. Et donc, en fait, Cette étude de Emma Whitelaw montre que des facteurs qui sont des modificateurs de la répression épigénétique des gènes, comme TRIM28, DNMT3A, jouent un rôle fondamental dans ce processus de canalisation sans doute, et que leurs niveaux ont été ajustés sans doute au cours de l'évolution pour permettre aux cellules d'acquérir différents profils d'expression génique au cours de la différenciation et le développement, et en même temps pour verrouiller le profil d'expression des gènes, le profil transcriptionnel de différents types de cellules différenciées. Donc c'est deux concepts en un ici, la canalisation et le fait qu'il faut tamponner la dérégulation des gènes au cours du développement. Donc TRIM28 joue un rôle ici, et puis aussi pour permettre que les facteurs comme HP1, etc., les facteurs épigénétiques, les modificateurs, verrouillent le choix qui a été fait au cours du développement. Et donc, comme ça, on peut imaginer qu'à un moment, il y a ces deux chemins en prise et que les deux phénotypes qui sont mis en place peuvent être assez distincts. Il faut dire que c'est le premier rapport à ma connaissance qui fait état d'un mécanisme capable de modifier le degré de variance au niveau d'un organisme entier chez les mammifères. Et donc ça a des implications bien sûr pour les maladies et les mécanismes qui sous-tendent les maladies et les phénotypes dans d'autres organismes comme l'humain. Donc elle a évoqué tout ça dans son papier, et ensuite malheureusement elle a pris sa retraite, donc d'autres scientifiques ont dû prendre le relais. Et ici, je vous montre le travail d'Andrew Pospisilic, qui est un chercheur qui en fait a travaillé en Europe, à Fribourg pendant quelques années. Maintenant il est aux États-Unis, et lui, il est très intéressé par cette... on va dire bistabilité d'obésité qui a été trouvée chez les souris qui étaient hétérozygotes pour TRIM28. Et donc il a publié une étude, il a approfondi cette démarche en regardant quels sont les gènes finalement qui sont perturbés dans les différentes souris de... Enfin, les souris avec le même génotype, mais avec un phénotype très différent. Et donc là, je vous passe tous les détails de ce qui était fait dans ce papier, mais qui est très beau. Et en fait, ils ont passé de la souris même à l'homme. Et ils ont trouvé que, effectivement, TRIM28 est important pour la programmation des gènes en cours du développement, que cette haploinsuffisance, donc cette absence d'une des deux copies, affecte la formation du complexe TRIM28 avec la ZFP57, je vous en avais parlé. On savait que ce facteur de transcription est important pour les gènes soumis à l'empreinte, et que ceci fait qu'il y a une suppression de tous les gènes dans un des clusters qui est soumis à l'empreinte, IGN1, qui comprend des gènes comme PEG3, NNAT, etc. Donc il y a toute une série des gènes qui sont soumis à l'empreinte, qui en fait sont exprimés normalement que à partir de l'allèle paternel, si je ne me trompe pas, et qu'en absence de TRIM28 sur un allèle, on voit une perturbation de cette expression. Et donc, une des questions qui a été posée, c'était est-ce que c'est la baisse d'expression de gènes comme NNAT, qui en fait est soumis à l'empreinte et exprimé qu'à partir d'un allèle et pas l'autre, en fait la réduction d'expression de ces gènes, est-ce que ça c'est responsable des souris qui deviennent obèses, alors que les souris qui ne deviennent pas obèses ne montrent pas cette réduction d'expression? Est-ce qu'il y a une causalité génétique, même si, comme j'ai dit, ces souris sont identiques génétiquement? Mais les deux phénotypes sont très différents. Donc en fait, juste pour dire qu'il a quand même bien démontré dans son étude, dans ce papier, que c'est vraiment un polyphénisme. Il n'y a pas toute une gamme de poids dans la progéniture. La semaine dernière, je vous avais parlé des souris agouties, avec cet élément transposable à côté du gène, donne des phénotypes, donc donne toute une gamme de phénotypes. Donc les souris ont une couleur différente et puis aussi une taille différente. Ici, ce n'est pas ça. C'est soit c'est obèse, soit ce n'est pas obèse. Hein. Donc c'est polyphénisme qui est apparent, mais est dû à quoi? Et donc ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui déclenche ça? Est-ce que c'est juste probabilistique ou est-ce qu'il y a une influence au cours du développement qu'il y a les souris qui mangent un peu plus à la naissance ou même qu'effectivement la nutrition déployée quand les fœtus sont dans le ventre de leur mère est un tout petit peu différent, ou est-ce que c'est hormonal, ou est-ce que c'est même dans la génération d'avant, effectivement, que la mère elle-même, elle peut influencer ça. Donc il y a tout un tas de questions qui sont ouvertes, mais le phénotype reste à expliquer. Et puis, puisque c'est la première fois que ça a été montré chez les mammifères, chez les souris, ce type de dimorphisme ou polyphénisme, est-ce que ça peut être adaptatif? La question est aussi posée, et dans ce papier, il parle du fait que peut-être la possibilité d'avoir ce polyphénisme, parce qu'on peut imaginer que TRIM28 n'est pas toujours muté, mais qu'il y a des différences d'expression de cette protéine dues à des variants naturels génétiques, pas forcément une délétion totale, mais une polymorphisme qui fait qu'un allèle est moins exprimé que l'autre. Donc en fait, est-ce que ça peut avoir un avantage évolutif d'avoir ce type de polyphonisme? Et en fait, oui, on peut spéculer que il peut avoir, pour les souris en tout cas, le besoin de s'adapter à différents types de terriers qui sont plus ou moins grands, aussi pour une résistance à la famine, privation de nourriture. Je vous avais montré tout à l'heure le rat taupe nu, ces disperseurs avec beaucoup de gras. Pourquoi ces rats taupe nu, tout d'un coup, ils ont ce phénotype? C'est peut-être dû à ce type de variation. Donc même si génétiquement ils sont identiques, ils peuvent produire ce type de phénotype très, très différent, obèse, beaucoup plus de gras, qui peut avoir un avantage dans certaines conditions. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses. Et le laboratoire de Pospisilic, ils ne sont pas arrêtés là, donc je suis désolée, c'est très dense, mais en fait c'était juste, le message est très simple. Ils ont regardé si dans des études épidémiologiques chez l'humain, chez les populations, surtout aux États-Unis, donc ça c'est des données qui sont accessibles au public, hein, et ils ont regardé les analyses qui ont été faites sur les distributions du poids corporel humain, et plus particulièrement l'indice de masse corporelle, le body mass index, qui était différent chez les souris TRIM28. Et ils ont trouvé que cette bimodalité, qui n'était pas détectée avant, mais qui est là dans les données, et elle peut être observée chez les enfants de toutes les classes. Alors là, ça c'est les adultes, mais en tout cas, je ne montre pas les enfants, mais en tout cas, chez les enfants de toutes les classes et dans certaines et dans les adultes aussi, ils voient qu'il y a une fréquence des individus appartenant à une sous-population lourde d'indices de masse corporelle, tandis qu'il y a une autre sous-population qui est plus légère. Alors, ils ont regardé pendant deux périodes. Là, c'est les individus de la période 1963 à 1994, ici, et puis des populations entre 1999 et 2012. Et en fait, ils ont vu qu'effectivement, alors que dans les périodes des années 60 à 90, c'est difficile de voir qu'il y a une bimodalité. En fait, plus récemment, clairement, les populations montrent une bimodalité beaucoup plus importante. Donc en fait, ils ont réanalysé ces données pour chercher si oui ou non il y avait cette distribution bimodale. Et ce qu'ils ont vu, c'est que en fait, il y a clairement une suggestion de polyphénisme. Ces données sont en accord avec ce qui a été trouvé dans les souris. Hein, ça corrèle très bien. Et ces données suggèrent aussi qu'il y a une augmentation de l'incidence de cette catégorie distincte d'individus qui sont déclenchés. Par quoi, on ne sait pas. La nourriture, bien sûr, l'environnement, mais en tout cas, qui peuvent être déclenchés et qui peuvent avoir donc un fond génétique, même si ici, on parle des populations, bien sûr. On ne parle pas encore des jumeaux, mais ils ont fait ensuite une analyse sur les jumeaux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette analyse sur la variabilité de l'obésité dans des populations montre, ça va contre l'affirmation générale selon laquelle l'ensemble de la population aux États-Unis, en tout cas, est en train de devenir beaucoup plus obèse. C'est pas l'ensemble, c'est clairement avec une bimodalité de plus en plus remarquable ou remarquée. Donc avec un fond génétique qui est peut-être lié avec ce type de phénomène dont on a parlé avec chez la souris. Et ils ont regardé ensuite les données qui étaient disponibles chez l'humain pour la présence de TRIM28 dans les tissus adipeux. Et ils ont montré qu'effectivement, il y avait des individus avec des niveaux plus bas d'expression de TRIM28 au niveau de l'ARN. Hein, donc, ils n'ont pas pu mesurer la protéine, mais en tout cas au niveau de l'ARN, qui corrélait avec une augmentation de l'incidence de l'obésité et qui corrélait avec un changement transcriptomique qui corrélait avec cette dysrégulation de cette région soumise à l'empreinte dont j'ai parlé pour TRIM28. Donc en fait, chez l'humain, dans ces données, clairement, il y avait une corrélation. Mais pour pouvoir être plus précis, ils ont ensuite regardé donc des cohortes de jumeaux humains monozygotes. Et dans ces cohortes de jumeaux, il y a des différences de poids qui existent. Et donc, en prenant, et là il s'agit pas de centaines, mais de dizaines de couples de jumeaux, que quand il y a une différence de poids, il y a un jumeau qui a, on va dire, un poids normal et l'autre jumeau qui a un poids beaucoup plus important, ils voient aussi une corrélation avec une réduction des niveaux de TRIM28 et une réduction des gènes dans cette cluster soumis à l'empreinte, comme j'ai dit tout à l'heure, NAT et d'autres, et PEC3, dans le jumeau qui est plus obèse. Donc ça, on parle a priori d'individus qui sont génétiquement identiques, mais qui montrent cette différence et ça corrèle avec cette différence d'expression, de niveau d'expression de TRIM28 encore. Donc ça veut dire que pour passer à cette régulation assez peut-être TRIM28 est aussi impliqué chez l'humain et que c'est cet axe TRIM28 et IGN1 qui touche à la chromatine et donc à la régulation de tous ces gènes qui pourrait être impliqué. Alors là, effectivement, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure pour les souris, chez l'humain, comment ça peut être influencé? Pourquoi dans les jumeaux, il y a un jumeau qui va développer l'obésité et l'autre pas? Est-ce que c'est des fluctuations hormonales? Est-ce que c'est des facteurs métaboliques? L'exposition à des facteurs environnementaux? Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des bonnes indications qu'effectivement, il y a une sorte de polyphénisme aussi chez l'humain pour ce phénotype. Et donc, pour aller un peu plus loin, le laboratoire a ensuite étudié certains de ces gènes qui sont sous influence par le TRIM28 hétérozygote. Et un de ces gènes qui est soumis à l'empreinte est le gène NNAT. Donc, NNAT est contrôlé par TRIM28, comme les autres gènes qui sont dans ce cluster qui est soumis à l'empreinte. Et donc, en fait, ils ont regardé quel est le phénotype quand on délète une copie de NNAT paternelle. On a donc des hétérozygotes. Est-ce qu'on a ce phénotype? Est-ce qu'on reproduit le phénotype de TRIM28? Et de première vue, oui, on a. Donc là, on voit bien les souris. Donc ça, c'est une souris qui est sauvage, c'est-à-dire il n'y a pas de mutation, ni dans TRIM28, ni dans NNAT. Là, c'est une souris NNAT hétérozygote qui est de taille normale. Et là, on voit une souris hétérozygote de la même portée qui clairement est obèse. Donc, on voit cette différence aussi chez les souris qui sont hétérozygotes pour un de ces gènes qui semble être sous influence de TRIM28, sensible au niveau de TRIM28. Alors, par ailleurs, on sait que ce gène, qui est dans ce réseau soumis à l'empreinte, est aussi corrélé avec l'obésité. Ça, c'est en faisant des analyses GWAS chez l'humain. Et très récemment aussi, ça a été impliqué dans la maturation hormonale des cellules endocrines. Donc, c'était un gène qui était déjà suspecté pour être impliqué dans l'obésité, mais ce qui n'était pas connu, c'est que ça redonne ce polyphénisme qu'on trouvait chez les TRIM28. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'ici, on voit les hétérozygotes TRIM28, et ici, c'est le poids de gras, fat mass et lean mass, donc la ratio qu'on voit des différents individus hétérozygotes. On voit les deux populations, les gros et les moins gros. Et ici, on voit les NNAT, et on voit que c'est deux populations aussi. Mais quand on voit les deux ensemble, donc les doubles mutants, donc NNAT plus moins et TRIM28 plus moins, on voit trois populations qui semblent sortir. Donc en fait, dans cette étude, c'est très intéressant parce qu'ils ont vu que même si NNAT est susceptible à l'expression au niveau de la protéine TRIM28, ces doubles mutants montrent qu'il y a trois phénotypes distincts et que finalement NNAT joue un rôle aussi de canalisation en fait, ou de génération de cette dimorphisme qui est différent de TRIM28. Donc, c'est pas que via TRIM28 que NNAT joue ce rôle. Donc, ça veut dire que peut-être tout ce réseau de gènes peut donner lieu à ce type de polyphénisme. Mais c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être plusieurs manières de voir ce type d'obésité apparaître dans des individus qui sont génétiquement identiques. Et alors là, en fait, on rentre dans tout un domaine qui est le UPV, Unexplained Phenotypic Variation. Voilà. Donc là, je pense que ça sera un cours prochain. Mais là, c'est un exemple classique, si on veut, de Unexplained Phenotypic Variation. Parce que tous les chercheurs qui travaillent avec les données humaines en particulier, et puis regardent à quoi est due une variation phénotypique quand on regarde les populations, les données génétiques, donc les GWAS, etc. Il y a toute une partie de la variation phénotypique qui ne peut pas être expliquée simplement par la génétique telle qu'elle est vue par GWAS. Mais quand on a des phénomènes comme ça, où on peut avoir génétiquement deux individus génétiquement identiques, mais hétérozygote pour TRIM28 ou NNAT, mais avec des phénotypes très différents, on voit qu'effectivement, ça complique l'affaire, mais ça peut apporter aussi des explications. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, Mais effectivement, on pense que la base de cette variation phénotypique inexpliquée est clairement multifactorielle. Très souvent, quand les gens en parlent, ils parlaient du bruit biologique aléatoire, donc « biological noise ». Mais sans doute, ce n'est pas du bruit. Et ces travaux avec Ennat et Trinvadvid montrent qu'une telle variation peut provenir même d'un seul gène régulé de manière probabilistique pour établir un état d'expression génique « on » ou « off ». Alors, moi, j'ai aucun mal à croire et comprendre ça, parce que quand on travaille sur l'inactivation du X, c'est exactement ce qui se passe au cours du développement. Les deux X peuvent être génétiquement identiques, mais un gène, le gène régulateur, en l'occurrence XIST, exprimé qu'à partir d'un allèle et pas à partir d'autre. Et donc ça déclenche ensuite tout le phénomène, la compensation de doses, etc. Donc le fait qu'il y a des choix si polaires qui peuvent arriver au cours du développement et qui sont bien sûr intégrés dans des phénomènes épigénétiques ne me semble pas du tout bizarre. Mais c'est tout un débat et toute une... un débat, on va dire, en tout cas pour les données humaines. Mais en tout cas, chez la souris, maintenant... On peut vraiment établir des modèles où on a des individus génétiquement identiques avec des phénotypes très différents et où un des deux phénotypes, en fait, est comme le phénotype non muté. Enfin, voilà. Donc, ce qu'ils ont fait dans ce papier, c'est aussi regarder Ennat chez l'humain, dans les cohortes de jumeaux dont j'ai parlé. Et ils ont trouvé que Ennat, en fait, il y a dans ces cohortes de jumeaux, il y a deux types de unexplained phenotypic variation. Une qui est relative à l'adiposité et l'autre qui est relative à la surcroissance. Et ils ont montré dans ce papier que dans les jumeaux qui ont ce type de unexplained phenotypic variation, il y a une réduction de Ennat. Donc, comme je vous avais dit pour TRIM28 tout à l'heure, la réduction d'Ennat clairement corrèle avec ce type de différence entre les deux jumeaux, mais qui est liée à cette surcroissance et pas au niveau de l'adiposité. Et en fait, ils ont cherché à quoi ça pourrait être dû. Effectivement, dans ce type d'individu, c'est surtout lié à une augmentation de l'insuline plutôt que sur dans le pancréas, plutôt que l'adiposité générale. Donc en fait, c'est une autre manière de devenir obèse moléculairement. Donc, c'est deux manières très différentes, deux sous-types d'obésité qui, en fait, comportent, et là, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais quatre états métaboliques différents. Donc, à partir de ces quatre états différents métaboliques, il y a deux types phénotypiques qui sont différents et qui sont liés avec cette baisse de Ennat. Donc, je pense que c'est très important, non seulement parce que ça montre que chez les mammifères aussi on peut être polyphénique, mais aussi parce que ça ouvre vraiment la possibilité d'étudier de manière plus approfondie les bases des phénomènes complexes et surtout des phénomènes comme l'obésité qui touchent de plus en plus de la population. Et si on peut avoir des modèles murin tels que TRIM28, Ennat et puis d'autres, on peut vraiment décortiquer à quel niveau ça se passe pour mieux prévenir, empêcher la survenue de l'obésité, parce que c'est un réel problème aux États-Unis, mais aussi dans plein de différents pays. Et on peut ajuster de manière intelligente la manière d'aborder ça, parce que on peut comprendre un peu plus les bases moléculaires de quoi il s'agit. Voilà. Donc, voilà la fin du polyphénisme pour le moment. Pour résumer ce que j'ai dit, donc on peut trouver le polyphénisme un peu partout dans la nature, dans le monde animal, depuis les insectes jusqu'aux mammifères. On a parlé des ratopnus. On voit aussi qu'il y a des changements physiques qui ont lieu, mais ça, je n'en ai pas parlé, comme par exemple chez les loups ou d'autres espèces, un comportement alpha, donc ça sera pour une autre fois. Les concepts de polyphénisme et de phénotype qui associent une hiérarchie avec les comportements est parfois un peu flou, ça c'est vrai. Mais quand on regarde de point de vue moléculaire, on commence à comprendre quels sont les changements ou les déclenchements moléculaires qui font qu'on choisit une voie par rapport à une autre, que ce soit au cours du développement ou même plus tard chez l'adulte. Alors, il y a la question par rapport aux changements d'environnement dont on a parlé, à quel point ces changements sont stables ou réversibles. Donc ça, c'est important, y compris pour, par exemple, ce que je viens de vous dire pour l'obésité. Et donc, comprendre les bases moléculaires épigénétiques, ça sera très important. Et je voulais juste terminer en disant que, outre donc, les facteurs génétiques et environnementaux, donc c'est les résultats phénotypiques dont on en parlait là chez les mammifères sont définis aussi par des facteurs probabilistiques qui sont susceptibles de canaliser de multiples résultats distincts, resta ça veut dire résultats destin, qui sont distincts et stables et reproductibles. Donc on pense que une grande fraction des maladies métaboliques chez l'humain et les processus potentiellement associés tels que le cancer et l'inflammation sont définis par de tels processus. Donc je pense que, j'espère que ce n'était pas trop confus, mais ce que je viens de vous montrer, les derniers papiers sur cet polyphénisme, cette réalisation qu'il s'agit de mettre en place un état d'expression ou pas des gènes tôt au cours du développement via des facteurs comme TRIM28 est extrêmement important pour comprendre la diversité de phénotypes qu'on trouve chez l'humain et pour la santé humaine. Donc voilà, maintenant on va passer à la suite qui est le bet hedging. Je vais revenir sur les phénomènes épigénétiques. Je vois qu'on est presque à midi et je pense qu'on va arrêter là parce que je suis très fatiguée et parce que maintenant c'est une nouvelle histoire, je ne veux pas vous fatiguer non plus. On va commencer en parlant des champignons, après on va passer aussi aux souris et je vais faire ça mieux la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie et je vous vois la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.